Bonjour tout le monde, bienvenue à notre cinquième podcast qui prend une autre forme complètement aujourd'hui. On est à chercher un petit peu les façons, dans le fond, qui vont rejoindre le maximum de personnes puis qui vont répondre à la demande des gens. Donc, gênez-vous pas si jamais vous avez des demandes spéciales de nous écrire à Maison La Margelle pour nous en jaser. Aujourd'hui, la forme que ça prend, ça va être une discussion entre moi, dans le fond, Marie-Josée, la superviseure clinique à la Maison La Margelle, et une de nos intervenantes que vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, Kim Tatou, qu'on a surnommée. Kim, je te laisse te présenter.
Bonjour, moi je suis Kim Berger, je suis intervenante à la Maison La Margelle depuis un peu plus qu'un an. Depuis tout récemment, depuis quelques mois, je suis temps plein du lundi au vendredi de 5 à minuit, ici à la Maison La Margelle.
Qu'on est vraiment privilégié d'avoir Kim. Kim, avant, travaillait de fin de semaine, puis on maximisait pas tout son potentiel, son plein potentiel. Donc, quand un poste s'est libéré et que Kim a rejoint l'équipe à temps plein, c'est vraiment un ajout extraordinaire à l'équipe. On l'appelle Kim Tatou, puis Kim n'a pas juste des tatous. Elle a vraiment beaucoup, plein de connaissances. Je pense que vous en êtes rendu compte, là, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Puis si vous nous écoutez aujourd'hui, je pense que c'est que vous nous suivez. Kim nous parle de divers sujets, puis c'est une petite bible. Kim lit quelque chose, puis elle l'assimile, puis elle peut nous en jaser. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, de quoi va-t-on parler, Kim?
Aujourd'hui, dans le fond, le thème que j'ai décidé de prendre, c'est un thème qui a été abordé tout juste ce matin, dans le fond, avec les résidents de la Maison La Margelle, puis c'est l'ivresse mentale. La fameuse ivresse mentale.
Effectivement, aujourd'hui, les résidents ne le savaient même pas. J'ai assisté à leur réflexion quotidienne. On fait ça à chaque matin, hein, une réflexion qui est tirée d'un livre, d'une œuvre, souvent des fraternités. Puis le résident avait choisi le thème ivresse mentale, puis il ne savait pas du tout qu'il s'en allait en atelier ce matin, puis qu'il allait jaser de l'ivresse mentale. Il y a beaucoup de choses qui ont sorti ce matin, dans le fond, de point de vue, puis de façon de voir les choses. Puis moi, ça m'intéresse toujours d'écouter les différents points de vue, puis c'est ce qu'on fait en réflexion quotidienne. On ne juge pas, puis on écoute tout ça. Qu'est-ce que, dans le fond, tu vas nous jaser un petit peu cette semaine dans le thème ivresse mentale, Kim?
Bien, premièrement, je vais expliquer c'est quoi l'ivresse mentale, un peu les symptômes qui sont associés à ça. Parce que souvent, dans le fond, on identifie l'ivresse mentale comme étant juste quelqu'un qui va être surtout dans des émotions qui sont négatives. Puis au contraire, dans le fond, ça peut être autant des émotions positives, puis avoir l'impression que tout va bien, qu'on est sur un pink cloud, comme on appelle. Bien, je vais parler un peu de ça. Je vais parler aussi, bien sûr, dans le fond, des remèdes à l'ivresse mentale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis aussi, le principe que l'ivresse mentale, ça peut aller chercher aussi des personnes qui n'ont pas nécessairement une dépendance. Puis c'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est qu'avec ou sans dépendance, l'ivresse mentale, ça peut toucher un peu tout le monde.
T'sais. OK. Fait que commençons par le point 1. Dans le fond, on va décortiquer tout ça. Tu nous dis que l'ivresse mentale, ça dans le fond, c'est pas juste les émotions négatives. Souvent, les gens pensent que, bon, les rechutes sont dues parce que en lien avec l'ivresse mentale, il y a la rechute. Donc, les gens qui rechutent disent « Ah, ben c'est parce que je vivais des choses qui étaient négatives », mais c'est pas toujours juste les choses négatives, comme tu dis. Il y a les trucs trop positifs là, qui peuvent arriver.
Exactement. Premièrement, l'ivresse mentale, pour ceux qui n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'on parle, mais cette bébite-là, dans le fond, c'est quand tous nos vieux comportements, toutes nos vieilles attitudes réapparaissent. Fait que toutes les choses qu'on a travaillées ou qu'on n'a peut-être pas nécessairement travaillées refont surface. Donc, on appelle ça un peu une rechute de comportement au début. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent que ça va précéder une rechute qui est physique, c'est-à-dire de retourner consommer. Parce qu'on va tout reprendre nos vieux comportements qu'on avait justement pendant la consommation. Comme par exemple, parfois, les émotions positives vont être associées à un « tout va trop bien ». Tout va tout le temps bien, puis ça peut amener à faire en sorte qu'on se regarde plus en arrière, qu'on regarde plus qu'on est à risque que de, par exemple, rechuter justement dans ce cas-là. Ce qui peut faire en sorte qu'on peut décider que « Ah, ça va bien, ça fait 3 mois que je n'ai pas consommé, je suis à l'abri de tout. Donc, je vais recommencer à aller à des bars avec des amis, mais je vais juste boire du café, je vais juste boire de l'eau, puis ça va bien aller. » Fait que des fois, justement, les émotions positives vont être associées à ça, c'est-à-dire avoir l'impression que tout va trop bien, puis moi, je suis pas à risque de rien.
Être au-dessus de ses affaires.
Exactement, c'est carrément ça. C'est être au-dessus de ses affaires puis être dans son pink cloud. Puis un pink cloud, c'est correct. T'sais. Quand on sort de thérapie, on est content, on a atteint quelque chose. Mais le pink cloud, il faut qu'il retombe. Dans le cas de l'ivresse mentale, il retombe pas.
Fait que, dans le fond, le fait d'être au-dessus de ses affaires amène le comportement. Tu as pris l'exemple de la personne qui retourne dans les lieux de consommation.
Exactement. Puis ça l'amène, dans le fond, à retourner dans ses vieilles routines, dans ses vieux patterns qu'il y avait justement avant. Que ça soit des lieux de consommation ou que ça soit des amis qui sont peut-être pas des consommateurs, mais qui sont pas nécessairement des bonnes, dans le fond, fréquentations quand même. Puis qu'on sait qu'inévitablement, ben, ça va me ramener vers ça. Fait que c'est vraiment être au-dessus de ses affaires.
Puis, dis-moi si je me trompe, mais parfois, l'ivresse mentale se produit, peut être sur un bon bout de temps. Parce que la personne peut le faire une fois, retourne à la maison, a pris son café, ça a bien été. Exact. Puis là, ben, la surestime augmente encore parce que, ben, coudonc, finalement, j'avais raison. Je peux retourner, moi, au petit bord d'à côté, oui, voir mes anciens amis. Puis ça a bien été. Fait qu'il retourne une deuxième fois, une troisième fois, et à un moment donné, pouf, la vulnérabilité est là.
Exactement.
Et ça se produit.
Puis la vulnérabilité, ça va pas nécessairement que, mettons, je me suis chicanée avec mon conjoint, ma conjointe. Fait que là, ben, la cinquième fois, ah, ben, coudonc, je vais la prendre, ma petite bière, tu sais, elle me fera pas de tort. Ça fait comme plein de... Ça fait 5 mois, j'ai arrêté de consommer, ça, c'est pas grave. Des fois, ça peut être aussi que tu passes une vraiment belle soirée, puis tu vois des amis qui consomment autour de toi, puis tu sais, eux, ils ont peut-être pas de problème, mais eux, c'est le fun, ils ont du fun, puis ah, t'aimerais donc retourner vers ce fun-là, fait que t'oublies où la consommation t'a amené. Et voilà, pouf. T'sais, le premier verre est tout le temps à une portée de main, comme on dit, donc c'est là que ça peut amener.
Parce qu'on se le cachera pas, les gens qui viennent ici en thérapie, dans le fond, c'est pas parce qu'ils ont eu une fois que ça a mal été, puis mm-hmm. ils sont venus en thérapie. Dans le fond, quand ils arrêtent de consommer puis qu'ils font un moment d'abstinence, ce qu'ils ont laissé en arrière de eux puis qu'est-ce qu'ils ont construit, ça a été travailler fort, là. Parce que c'est pas rien, arrêter de consommer. C'est pas facile. La thérapie, c'est pas facile non exact. Plus. Donc, la rechute peut avoir, dans le fond, après l'ivresse mentale, quand la rechute se produit, ça peut avoir des graves conséquences.
Exactement. Tu sais, ce qu'on dit tout le temps un peu dans le mouvement, c'est qu'une rechute, ça te ramène à la même place que tu étais à ta dernière fois que tu as consommé et même pire. Tu sais. Tu retombes pas à zéro, le compteur il est recommencé. Tu sais, tu retombes exactement où tu étais puis tu la creuses un peu plus, ta tombe. Ben, c'est ça qui fait peur, puis c'est ça qui peut être dur d'une rechute, justement, de là, il y a la culpabilité qui arrive, le fait qu'on se tape sur la tête, qu'on se dit, bon, mais tout ce beau chemin que j'ai fait là, tu sais, comme que je gaspille à cause de ça, puis tu sais, aussi dans l'ivresse mentale, ben, ça peut être super insidieux, cette rechute-là, c'est-à-dire que, tu sais, ça se peut que pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, 2 mois, prendre un verre de temps en temps, tu vas être capable, tu sais, c'est insidieux, mais inévitablement, ça te ramène où tu étais. C'est-à-dire que ton verre, une fois par semaine, où tu t'es dit que tu étais capable, mais ça se peut qu'il tombe à ah, un verre à tous les jours, ah, puis là, 3 verres à tous les jours, puis là, ah, ça te ramène vers une autre consommation que tu avais.
C'est ce qu'on appelle d'être ses breaks, je pense.
Exact.
Puis on prend l'analogie qu'on entend, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je vous la partage, mais de la voiture. Une voiture qui a 100 000 kilos, dans le fond, tu la ranges dans ton garage pour tout l'hiver. Quand tu vas la reprendre, elle va encore avoir 100 000 clous, puis son body va avoir 100 000. Fait que son body va être affecté, là, ouais, comme une voiture de 100 000 kilos. Donc, on est des voitures.
Mm-hmm.
Tu sais, je pense que nos blessures, parce que là, quand on parle de quelqu'un qui consomme, ça l'a affecté le cerveau, ça l'a affecté le foie, ça l'a affecté divers choses. Puis quand il arrête de consommer, oui, les gens peuvent se retaper, mais la fragilité va demeurer et va ressortir inévitablement. Là.
Exact. Puis ce qui est dangereux un peu avec ça aussi, c'est que, tu sais, tous ces petits comportements-là, tu sais, on dit souvent la consommation, on pense tellement à l'arrêt de consommation qu'on oublie que, tu sais, on a comme 85% que c'est nos comportements. Puis c'est là justement que l'ivresse mentale comme entre en jeu.
Et dans les 85%.
Exactement, tu sais, parce qu'on règle dans un certain sens, dans le fond, l'arrêt de consommation ici. Mais après ça, c'est tes comportements, tes attitudes, ton nouveau mode de vie qui va faire en sorte que tu vas réussir à remettre ce 15%-là de côté, tu sais, puis à pas consommer. Mm-hmm. Et justement, ben, dans l'ivresse mentale, que ce soit positif ou négatif dans les émotions que tu ressens, ben, tous ces comportements-là, quand ils se remettent en, justement, en branle, ben, c'est ça qui va faire en sorte que, bon, ben, ça va amener vers une rechute. Puis, tu sais, j'ai entendu ça justement tantôt, il y a quelqu'un ici qui m'a dit, tu sais, avoir su que l'ivresse mentale était quelque chose, ça m'aurait peut-être prévenu une rechute, tu sais, de comme prendre conscience de ces petits comportements-là.
Le fait de... Parce que la personne qui est en ivresse mentale, je crois qu'elle ne se voit pas.
Non.
Faut vraiment un très, 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 très gros regard sur soi pour pouvoir en prendre conscience. Mais le « nous » des fraternités, le fait d'être entouré de proches qui te voient en rétablissement puis à un moment donné qui te voit déraper, doit aider la personne à faire comme... un petit signal d'alarme. Si t'es bien entouré d'amis qui consomment plus puis qui ont le même mode de vie, si tu dérapes, ils vont dire « Hé, ça va pas bien, là. Mm-hmm. » Il me semble que tu retombes dans tes comportements.
Exactement. Tu sais, j'en ai jasé avec un ancien résident récemment dans un meeting. Puis, tu sais, il me parlait de tous les films qu'il achetait, puis etc. Puis, tu sais, j'ai juste lancé un petit ivresse mentale. Parce que, justement, c'est ça. Ça peut être de venir faire un transfert aussi de dépendance vers une autre dépendance qui peut ça en est banal pour nous, mais c'est quand même, on retourne dans nos vieux comportements. Alors, on achète tout pour rien ou l'agressivité, elle ressort. T'sais, ça faisait 5 mois que ça allait bien, que je travaillais sur moi. Puis là, tout d'un coup, j'ai le goût de me pogner avec tout le monde. Mais ça aussi, ça peut être un signe d'ivresse mentale. Ça peut être un signe qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas en équilibre. Donc, mes vieux comportements reviennent.
Tu m'enlèves les mots de la bouche, l'équilibre. Parce que c'est une recherche d'équilibre, là. C'est oui, tu sais, dans le fond, la personne qui a le comportement d'acheter beaucoup, bon, se rend compte, met un petit peu d'équilibre, va toujours balancer là, vers le fait que quand ça va moins bien, j'ai le goût de magasiner parce que ça me gèle, ça m'aide. L'autre qui fait de l'exercice va en faire trop. Tu sais, il y a tout un. Puis je pense que peu importe que tu sois indépendant ou pas un dépendant, chacun, on a comme nos façons de faire pour se fuir.
Exactement. Justement, le fait de magasiner, pense juste à des personnes qui n'ont pas nécessairement de dépendance, mais ça a été une mauvaise journée ou j'ai échoué un examen, je vais aller m'acheter un petit chandail pour me récompenser. Bien, c'est une forme, justement, que tu as dit tantôt de se geler, tu sais. Mm-hmm. De comme venir faire un petit volo sur moi, mais tu sais, ça te permet pas de venir gérer l'émotion associée à ça, ça te permet pas de chercher de nouvelles stratégies, fait que tu restes dans cette roue-là. De comme, ben c'est pas grave, à chaque fois que j'ai un échec, je vais aller me récompenser quelque part. Ou à chaque fois que j'ai, au contraire, ben peut-être justement une réussite, ben je vais aller me récompenser quelque part. Mais c'est parce que ça peut pas être tout le temps comme ça. T'sais.
On peut pas juste marcher aux récompenses.
Exactement.
Les chiens Pavlov,
non, ça...
On marche pas juste à la récompense. Ben, la récompense peut être la fierté.
Exact.
Tu sais, ça peut être d'autres formes, justement, que de se récompenser. Parce que il y a la récompense du verre du vendredi, de sortir. Là, parce que il y a ça, on s'en rend compte, on le voit tellement, là, ici, là, les gens, le vendredi, là, ils commencent à avoir une fébrilité, là. Tu sais, la thérapie, elle continue 3 semaines, nous, que ce soit samedi, que ce soit vendredi, que ce soit dimanche, il y a de la thérapie, puis on continue. Mais le fait que ce soit le vendredi, les gens l'associent à... Ils ont eu la paye, puis ils s'en allaient consommer. Donc, le vendredi, ils nous le demandent. On peut-tu avoir du pop-corn? On peut-tu avoir une récompense? On peut-tu avoir un petit quelque chose de spécial, là, pour venir... dans le fond, nous féliciter, tu sais, c'est...
Puis tu sais, au début, ces petites choses-là, comme peuvent aider un peu, c'est-à-dire de changer ta routine, mais tu sais, justement, inévitablement, il faut que tu changes ta routine, pour que ton vendredi, ça soit différent, tu sais, ça peut pas être, bon, ben, au lieu d'avoir mon verre de vin, ben, je vais avoir mon verre de cidre, tu sais, sans alcool, mais...
C'est pas une substitution.
C'est ça, tu sais, ça se peut que ce verre-là te rappelle l'autre, tu sais, fait que c'est de comme changer ta routine au tout pour tout, là.
D'aller à un meeting le vendredi à la place.
Exactement, tu sais, ça peut être justement, ben, je décide d'aller à un meeting, puis je vais faire un after meeting, tu sais, 3 personnes que je m'entends bien là-bas, ben, on va prendre un café, ben, c'est venir changer ce goût-là, justement, tu sais. Puis c'est comme des bons trucs pour justement combattre cette ivresse mentale-là, parce que comme on parle, on se voit pas tout le temps aller, fait que ça nous prend d'autres regards aussi, puis aller dans un meeting, jaser avec les gens, ils vont peut-être te le faire remarquer que, ben, coudonc, t'sais, donc même plus, t'es plus agressif que d'habitude, ou, t'sais, ça fait 5 jours que tu me dis tout le temps que ça va pas, t'sais. faut que tu aies identifié, tu sais, pourquoi ça va pas. Puis justement, l'ivresse mentale, bien, à travers faire sa 10e étape aussi, c'est l'écriture le soir, de venir regarder, mettons, dans ton livre, parce que c'est tout le temps mieux à l'écriture, tu peux aller lire mes journées précédentes, puis faire comment, mais regarde, ça fait 6 jours que j'écris que ça va pas bien, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que là, ben, tu sais, il serait peut-être temps de faire quelque chose de différent, parce que ça se peut que, tu sais, la 7e, la 8e journée, elle soit fatale, puis que ça t'amène à une rechute, parce que c'est trop.
Je me dis aussi que le fait d'écouter, bon, le vendredi soir, va dans un meeting plus tôt, te rend pas trop compte que ça va pas, tu sais, dans les comportements, puis tout ça, la personne s'assoit sur une chaise, puis tout d'un coup, la personne en avant parle de ça, parle du stress mental, parle de comportement, parle de trucs, puis là, à un moment donné, ça doit allumer des cloches aussi, ça, tu sais, c'est là pour ça, là, les meetings, pour allumer des cloches, puis le fait de s'identifier au message qui est dit en avant, ben ça peut ramener à faire comme « Oups, là, oh, ouais, finalement, peut-être que
je suis... » Exactement. Ou que si t'as jamais eu de rechute de ta vie, puis ça fait 6 mois, par exemple, que t'es abstinent, puis là, la personne parle de ses rechutes, parle des comportements qui venaient avant des rechutes, tu fais « Ah, oh, ben tu sais, hey, c'est les comportements que j'ai en ce moment, mais ça te permet d'avoir un regard sur « Ok, gaffe, faut que je me regarde, il faut que je fasse des changements. »
On le voit ici tellement là, les vendredis de départ hein, ou les jeudis, là, quand la fébrilité, la thérapie finit. Là. Puis là, on se rend compte, là, on voit la personne qui dérape complètement. Encore le dernier groupe, moi, je me souviens d'avoir été là le vendredi puis de dire à un intervenant, je me souviens pas si c'était toi qui était là, je pense que c'était toi, puis de dire « Oh, Paulette, as-tu vu comment il était agité? »
Ouais, c'est moi.
Puis que la personne, dans le fond, était agitée, nous écoutait pas, on était en cérémonie comme finir la thérapie, etc. Puis on voyait clairement que la personne filait pas, là. Mais l'individu ne se reconnaissait pas. Je dis, il faut y dire avant de partir qu'on est inquiet sur son comportement. T'sais. Là, je sais pas comment que la personne va maintenant, mais après 3 semaines, là, de l'avoir, tu sais, de voir les gens avec nous, nous, on le voit. Fait que les proches de l'individu doivent très bien le voir, là, que le comportement est là.
Exactement.
Ça paraît, là.
Justement, tu sais, quand on fait notre fameux atelier pour la famille, ben, on en parle de ça, de comme tous les petits comportements, toutes les petites choses qui préviennent une rechute, parce qu'on s'entend que c'est la première question qu'on se fait demander par les familles. Quoi faire s'il y a une rechute ou quoi faire pour prévenir ça, une rechute? Puis on leur dit tout le temps, tu sais, vous pouvez pas faire grand-chose, mais par exemple, vous pouvez comme refléter à la personne qui revient dans ses vieux comportements. Mm-hmm. C'est que, elle continue à arrêter de vous appeler, elle a arrêté de passer du temps avec vous, comme elle faisait dans la consommation, elle a commencé à refréquenter d'anciens amis, puis tu t'en rends compte, mais tu sais, tu peux pas obliger la personne, mais tu peux y refléter, parce que ça se peut que la personne ne se voit pas aller, justement.
Mm-hmm. Ouais. C'est quelque chose. Là, on avait comme le point numéro 1, puis on a dérapé, on a parlé de tout plein de choses. C'était quoi, le point numéro 2, t'as senti?
Ben, les symptômes, tu sais, on en a parlé un peu, justement, à travers notre discussion que dérapé. Les symptômes, ben, c'est vraiment, tu sais, c'est acheter tout pour rien, c'est faire un transfert de dépendance, c'est revenir dans ses anciens comportements et ses anciennes attitudes, c'est-à-dire être tout le temps en colère, être agressif, ou être tout le temps triste, être tout le temps déçu, être dans les ressentiments aussi. T'sais. C'est pour ça qu'on met tellement l'emphase ici sur travailler, comme tout dans la semaine 2, sur les vieux ressentiments que tu avais, parce qu'il faut pas que tu en aies en sortant. T'sais. Puis si tu t'en crées, ben c'est de venir regarder. Sinon, ben, dans le fond, tout ce que ça peut amener, ben, c'est justement aller revisiter d'anciens lieux que tu ne devrais pas aller. C'est vraiment ça. Il peut tellement en avoir plein. Je peux nommer une liste longue comme la terre, parce que c'est tous les comportements et attitudes qui sont associés à quand tu consommais.
Mm-hmm.
Fait que tu redeviens un peu la personne que tu étais en consommation, mais sans la consommation.
On entend que ben il y a des ennemis jurés au rétablissement tels que la fatigue.
Mm-hmm.
Fait que de trop travailler, la personne qui se pitch complètement, des fois j'en entends des résidents ils ont à se refaire financièrement. Ouais. Donc sorte de thérapie, travail 70-80 heures semaine, plus d'équilibre, on vient à l'équilibre, c'est intense ou c'est tout ou rien là, finalement ça c'est fait que la fatigue gambarque puis là ben ça devient dangereux.
Ben oui, parce que tu sais, contrairement à comme toute maladie comme ça le cancer ou peu importe, ou que tu sais t'as pas le choix de dans ton rétablissement de prendre du repos, mais là on n'a pas rien qui est apparent souvent.
Mm-hmm.
Fait que les gens oublient qu'ils sont en rétablissement. Tu sais, qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux, parce que c'est surtout au niveau de la tête que ça se passe. Fait que ils ont tendance à faire comme, regarde, tu sais, physiquement, ça va bien, tu sais, je vais aller me pitcher là-dedans, je vais comme tout faire tout de suite. Mais c'est un risque, justement, tu sais, il n'y a plus d'équilibre juste là-dedans. Puis c'est pour ça que, tu sais, quand on fait leur plan de sortie, on leur dit tout le temps, tu viens mettre l'équilibre dans toutes tes sphères, puis fais pas tout en même temps. Parce que tu vas t'épuiser, puis justement, c'est un risque pour leur établissement.
Mm. Tantôt, tu parles le ressentiment, tu sais, se réveiller la nuit pour haïr quelqu'un, là.
Ouais.
c'est quelque chose, ça, on l'entend souvent, tu sais. Mm-hmm. Puis, je crois que c'est un problème. Si la nuit, t'es hanté par quelque chose, un vieux ressentiment ou une situation désagréable qui remonte, appelle, parle-en. Vous savez aussi, ou ceux qui ne le savent pas, ben à la Margelle, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que si vous voyez aller puis vous avez envie de jaser puis que ça va pas, ben vous pouvez même appeler la nuit là, pour dire que ça va pas, j'essaie de dormir puis ça marche pas parce que le lendemain, ben tu te réveilles avec ça puis tu reconstruis ta journée là-dessus. Fait que c'est dangereux. Là.
Exactement, ça revient carrément à ça, tu sais, l'ivresse mentale, d'avoir ta petite cassette qui se répète dans ta tête. Puis, tu sais, inévitablement, ben, si tu te couches avec ça, tu te réveilles avec ça dans la nuit, le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas partir ta journée avec ça encore qui va te trotter dans la tête, tu sais.
Mm-hmm.
Puis, à un moment donné, ben, tu sais, l'élastique, elle peut s'étirer jusqu'à un certain point, tu sais.
Tantôt, je parlais avec quelqu'un, puis je parlais de l'importance de prendre soin de soi, tu sais, de ne pas mettre ses limites. Puis de dire oui à tout, ça peut être dangereux. Je dis pas que cette personne-là, du tout, faisait de l'ivresse mentale ou était proche de la rechute, mais ça peut être quelque chose de s'oublier complètement puis de faire pour les autres.
Exactement, parce que justement, mais probablement que dans la consommation, tu as délaissé des personnes autour de toi, il y a eu de la culpabilité qui était associée, fait que tu vas avoir tendance à peut-être vouloir tout faire.
Tout réparer en même temps.
Tout réparer en même temps, tu sais, c'est pas réaliste parce que tu dois avoir un petit côté égoïste dans le rétablissement, c'est-à-dire que c'est ton rétablissement en premier, parce que comment tu veux t'occuper des autres si tu peux pas t'occuper de toi, ça?
Puis s'occuper trop des autres ramène à la fatigue. La fatigue est un ennemi, etc. Là, la roue tourne.
La fatigue fait en sorte que tu manges moins, fait en sorte que tu vas moins bien psychologiquement, tu sais, tout est une roue.
La fameuse routine, hein, bien s'alimenter, manger des repas réguliers, puis tout ça, moi, en tout cas, je trouve tellement que c'est quelque chose d'important. Souvent, quand quelqu'un file pas ici, un est en mangeant, je dis souvent, as-tu mangé? Moi, je suis la maman qui, as-tu mangé? Au moins, t'as-tu mangé aujourd'hui? Tu sais, ouais. C'est la base. Puis, d'avoir faim, tu sais, ça peut être... Mange, je trouve, j'avais entendu le directeur, il avait dit ça à un moment donné à une ancienne résidente, qui avait dit, si t'as soif, t'as envie de boire, va manger du poulet. Mange du poulet, puis mangeant à être pleine, là, il dit, tu vas voir que t'auras plus le goût de boire. C'est vrai pareil. C'est vrai pareil, t'es plein, t'as pas envie là, de rejeter, puis ça calme à dedans. Fait que de pas. La routine, là, la saine routine, c'est pas pour rien qu'ici, on base tout sur la routine des heures régulières pour les repas, pour tout. Là. Fait que ça peut paraître plate. Il y en a qui disent ah, je veux pas embarquer là-dedans. Sauf que c'est poche, mais ça met un équilibre.
Exactement, ça met un équilibre. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas te lever le matin et que tu vas avoir faim, ce qui est normal. Tu sais, les gens qui disent qu'ils se lèvent le matin et qu'ils n'ont pas faim, mais il y a quelque chose de pas normal dans le fait que tu n'aies pas faim le matin. Tu sais, ça fait 8 heures que tu dors. Là.
Ouais.
Fait que justement, de comme tout retrouver ça, tu sais, parce que sinon, à force de, comme par exemple, juste comme pas manger des heures régulières, pas manger souvent, mais ça va faire en sorte que tranquillement, tu ne ressentiras plus la faim, mais tu vas la ressentir partout ailleurs. Par exemple, tu vas être fatigué, tu vas avoir des maux de tête, tu vas être plus irritable. Puis là encore, ben, on retombe dans une boucle négative.
Tantôt, je te partage, ce midi, dans le fond, je m'entraînais. Puis après, on avait une rencontre, moi et toi, en marketing. Puis là, juste avant le podcast, ben finalement, j'avais pas dîné encore. J'avais pas faim, là. J'avais mal au cœur même de tout ce qu'on avait à faire. Puis je t'ai dit, on va prendre une petite pause d'une demi-heure, puis je vais manger, tu sais. Puis finalement, l'appétit vient en mangeant.
Mais oui.
J'avais pas faim, puis j'ai fini tout mon meal. Puis j'ai comme fait, ouais, j'avais faim.
Exact.
J'avais faim, fait qu'on on se voit pas aller. Puis peu importe là, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, C'est important. C'est important de prendre soin de soi. La troisième, dans le fond, c'était ça. Je pense que c'était qu'est-ce qu'on fait pour.
Ben oui,
on en parle, là.
Qu'est-ce qu'on fait? Exactement, mais premièrement, tu sais, oui. Les soins d'habitude. Mm-hmm. C'est vraiment une clé, c'est pas pour rien qu'on en parle, justement. Tu sais, c'est un de nos premiers ateliers dans la troisième et dernière semaine en thérapie. Oui. C'est les soins d'habitude de vie. Tu sais, autant l'alimentation que l'exercice. Si, justement, tu as des restrictions au niveau physique, ben qu'est-ce que tu peux faire quand même pour venir mettre de l'exercice et activer ton corps? Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant qu'être assis à longueur de journée et rien faire. T'sais. L'exercice va t'amener cette énergie-là, va t'amener aussi un bonheur mm-hmm. à ce niveau-là. Justement, quand tu... C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de médecins qui prescrivent de l'exercice physique quand ça va pas.
Ouais. Au niveau des endorphines, ça c'est... T'sais, les ceux là qui les résidents qui faisaient de la cocaïne
ouais.
d'aller s'entraîner de faire de la course ceux qui sont mais capables là, de la course à pied puis mm-hmm. tout ça là je sais pas si vous le savez mais vous allez stimuler les mêmes zones mm-hmm. du cerveau là c'est puis la même chose pour les joueurs
puis pour le cannabis hein? aussi tu sais le comme 30 minutes d'exercice va t'amener le même sentiment d'apaisement que ça va t'amener, tu sais.
Hey, c'est quelque chose, fait qu'il faut pas le négliger.
Exactement, surtout dans les débuts où que les envies de consommation sont un peu plus là, mais justement, tu sais, l'exercice va t'amener, tu sais, c'est pas pour rien que des personnes qui arrêtent la cigarette vont venir faire l'exercice. Hey, parce que t'as pas le goût d'aller fumer une cigarette quand tu viens de t'entraîner.
Mm-hmm.
Puis si t'as le goût, mais entraîne-toi plus.
Il va partir à un moment donné. Parce que c'est des. Ça aussi, M. Harrison en parle beaucoup, notre directeur, les activités incompatibles.
Mm-hmm, exact.
Tu fumes pas avant d'aller faire un marathon.
Non.
Ça marche pas, là. T'sais, je prends tout le temps cet exemple-là parce que c'est quelque chose, ceux qui s'entraînent pour mm-hmm. ça, là. Ouais. C'est beaucoup de travail, hein? C'est oui. beaucoup de travail. Tu sais, on parle juste d'un terme, ivresse mentale, puis waouh.
Ça vient toucher toutes tes sphères de ta vie.
Ouais. Vraiment.
Mm. Exact. T'sais, ça peut paraître tellement gros, mais c'est juste de venir instaurer des habitudes. Puis ceux qui viennent en thérapie ici, c'est ça qu'ils font pendant 3 semaines. Après ça, c'est juste tu le maintiens. C'est ça la plus grosse partie de la job, c'est le maintenir à travers bon ben l'école ou le travail ou les enfants tout ça. Mais c'est juste de, dans le fond, de venir te planifier un horaire qui est un peu plus serré au début. Puis après ça, ça va devenir un automatisme.
OK. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Kim, par rapport à l'ivresse mentale?
Je pense qu'on a tellement, comme tout dit, sur le sujet, mais encore une fois, on pourrait en parler pendant 3 heures parce que c'est un sujet qui vient tellement toucher plein de choses, mais la base est là. T'sais, l'ivresse mm-hmm. mentale, il n'y a pas de miracle. C'est venir vraiment faire un travail d'introspection sur soi-même constamment. T'sais, ça peut paraître lourd, mais en même temps, ben, travailler sur nos comportements, travailler sur notre estime de soi, travailler sur nos attitudes, c'est un travail d'une vie. T'sais. On n'est jamais à l'abri qu'on soit dépendant ou non.
Moi, j'aurais envie de vous inviter sur la dans le fond de venir nous écrire un commentaire sur qu'est-ce que vous faites, vous, pour prendre soin, dans le fond, de vous quand que vous voyez que vous dérapez, puis que sûrement, si vous avez déjà fait de l'ivresse mentale, sûrement que tout le monde peut dire « Ah oui, j'ai déjà été dans mes comportements. » Donc, quel truc vous prenez? Puis, je vous invite aussi à faire un like, un review sur la plateforme que vous nous écoutez pour que notre podcast, dans le fond, soit connu de plus en plus. C'est je crois qu'on peut atteindre beaucoup de personnes puis peut-être en aider beaucoup. Puis ça, c'est la raison d'être pourquoi qu'on met toute notre énergie puis notre cœur à cet ouvrage-là là, de marketing, moi et Kim. Donc, merci Kim.
Merci beaucoup.